et bienvenue dans le podcast Perdusa édition été 2015.
C'est ça.
Où on va donc vous parler des séries qu'on a vues ces derniers mois, pour certaines qu'on aurait dû voir ces dernières années, n'est-ce pas Gégé?
C'est ça.
On est donc autour de cette table avec Gégé.
Hello.
Tigrou? Non, ok. Et Jules. Voilà.
Toujours aussi timide.
Toujours aussi timide, mais toujours aussi pertinent dans ses remarques et dans ses signes de tête.
N'hésite pas à intervenir, c'est ton podcast,
c'est ton site. Merci d'ailleurs de l'avoir créé, tu as permis à la société française d'avoir son Heavy Club.
C'est ça.
Toute proportion gardée, en termes d'audience.
C'est ça.
Tout ce qui nous sépare du Heavy Club après tout, c'est l'audience. Et la crédibilité. On va donc vous parler par exemple de Mr. Robot, d'Unreal, de Sensei, de BoJack Horseman,
de Zoo,
de Rectify. Attendez-vous à du lourd, c'est parti. On va commencer par Mr. Robot. Mr. Robot qui en fait est la version et l'adaptation en série TV, ben on
de
peut le révéler
vie,
aujourd'hui. Jus. Ouais, de ta vie, Jus. Donc oui, on a été contacté, c'était quoi, en décembre 2013,
et
ils nous ont demandé donc les droits par USC Network, qui voulait en fait les droits de la vie de Ju pour l'adapter en série TV. Ju, dans un élan de modestie qui te convient
qui
au final très bien, qui te caractérise totalement à mes yeux, t'as accepté. C'était courageux de ta part. C'était vraiment courageux de ta part. Et donc voilà, on regarde cette série sur ta vie, si tu veux nous... Non, trop personnel pour toi, t'as pas envie de le dire toi-même. Ok, alors GG, fais-nous le pitch de la série.
Le pitch de la série, je peux dire que c'est une série qui passe sur USA Network. USA, non
c'est... USA, USA, USA.
Écrit par un monsieur qui s'appelle Sam Esmail, qui avait pas fait grand chose avant en matière de série ou de film. Il a fait un seul film qu'Iris va s'empresser de regarder immédiatement après ce podcast, puisqu'il met en scène
Amy Rossum et Justin Long, et que c'est une comédie romantique. Et comme on le sait tous, les comédies romantiques avec Justin Long ne peuvent qu'être réussies. Regardez Going the Distance et regardez Tusk, deux comédies romantiques absolument magnifiques.
Mais on essaie de parler de Mr. Robot.
Jus est mort de rire. Non, je t'explique.
Tu as fait rire Jus.
Je t'explique pourquoi Jus est mort de rire. Là, en fait, c'est parce que Tusk, c'est un film de genre, c'est un film d'horreur. C'est pas une comédie romantique. Donc, c'était ça la blague. Mais oui, je sais, moi aussi, j'aime bien qu'on ait des private jokes. Pardon, c'est nos élans. On sent la tension sexuelle et amoureuse entre moi et Jus, comme vous pouvez le percevoir au travers des articles du site d'ailleurs. Arrête, ça me gêne. Donc, GG, parlons de Mr. Robot. Qui sont les protagonistes de Mr. Robot?
Donc, il y a un top modèle qui a l'air de fumer beaucoup de substances prohibées, qui apparemment est très très fort en informatique.
Et mais il fume pas, Mr. Tu parles de...
De ses yeux.
Mais il prend de la morphine.
Mais c'est pas ça, la morphine qui a rendu ses yeux comme ça.
Mais ses yeux, enfin, ils sont comment ses yeux?
Ils sont explosés.
Mais j'ai pas des yeux explosés.
Non, mais tu joues pas dans Mr. Robot.
Oui, mais pour quel est le... Est-ce que tu vois, ça, c'est... je pense que c'est encore une fois ta voix d'homme blanc cis qui s'exprime, parce que tu bloques sur ses yeux. Pour moi, ce sont pas des yeux qui... C'est le genre d'yeux qui permettent qui devraient apparaître plus souvent à la télévision. Je pense que le paysage télévisuel manque d'yeux explosés tels que ceux du protagoniste de Mr. Robot, dont aucun de nous ne semble être capable de se souvenir du nom.
C'est Elliot, il s'appelle Elliot.
Évidemment, Elliot, putain. Ju, tu devrais le savoir, c'est toi qui as choisi le prénom. Pourquoi Elliot? Oh, à cause d'Elliot Smith, sérieux? Ah, trop cool.
À cause de qui?
Elliot Smith.
C'est qui?
Bah, Jules, tu veux lui dire? Non, je lui dis moi. C'est notre songwriter préféré. Il fait des chansons magnifiques, Between the Bars, Needle in the Hay, que tu as pu entendre dans Royal Tenenbaum.
Que j'ai pas vu, non.
Que t'as pas vu, ok, d'accord. Pardon, tu es parisien et homo, je pensais que tu étais forcément fan de Wes Anderson.
Ça doit être ma petite particularité à moi qui me
c'est
différencie des autres.
C'est ton côté perdusien. Vous avez, j'ai remarqué que vous aviez tous une caractéristique particulière. Jus, c'est apparemment le fait de ne pas vouloir qu'on l'entende. Arrête de me chuchoter toutes tes réponses à l'oreille, Jus. Donc, allez, non, c'est vrai, à un moment, je vais entendre ta voix. Donc, Elliot est dans une. Elliot voit le monde d'une manière assez particulière, puisqu'il a reprogrammé son cerveau pour percevoir le nom de E-Corp, qui est une corporation qui fait quoi exactement ?
Je sais pas, mais c'est un peu un mix entre Microsoft et Monsanto, oui, Google.
Voilà. Donc, il a reprogrammé son cerveau pour percevoir Evil Corp à la place de E-Corp. Et donc c'est un hacker, ce qui est très très sexy. Et c'est un hacker et il va être contacté. Il est interprété par qui d'ailleurs ?
On a pris des notes hein, pour faire ça de façon un peu pro. Ah, attends, j'arrive pas à me redire. Rami Malek.
Alors Rami Malek, oui, qui est très charismatique. Vraiment, c'est une boule de charisme cet acteur. Je suis tombée amoureuse de lui dès le pilote. Hein. Il va hacker cette e-corp et rejoindre un groupe de hackers mené par Mr. Robot incarné par Christian Slater. Très bon Christian Slater que je l'avais vu il y a quelques années et je m'étais dit que la vieillesse ne lui avait pas du tout réussi. Et bien Mr. Robot me prouve que j'avais tort puisqu'il y est resplendissant.
Et puis on y trouve aussi la fille qui jouait Dahlia dans...
Suburgatory.
Ah là, j'ai mis à peu près 5 épisodes à me rendre compte.
Sérieusement ?
Que c'était
elle. Ah, ah bah moi oui. J'ai remarqué dès le début.
Bah je me disais que je la connaissais bien elle.
Bah mais... moi j'adore, et elle a une espèce de continuité dans son jeu par rapport à Suburgatory, je trouve. Elle a ce côté, enfin, elle est très particulière comme actrice, mais elle est parfaitement à sa place. Elle est autant à sa place dans cette série qu'elle l'était dans Suburgatory. Et elle était un des très bons points de Suburgatory. Si ce n'est même peut-être le plus gros point fort de la série à partir de sa saison 2. Est-ce que ça a eu 2 saisons Suburgatory ?
Je crois qu'on en a eu 3.
Ça, on a eu 3, c'est ça, ouais.
Donc bref, vous voyez qu'on a beaucoup de mal à vous expliquer pourquoi Mr. Robot, c'est hyper bien.
Bah oui, non, mais parce que c'est déjà le point fort de la série, c'est qu'elle a une ambiance qui te happe totalement. Dès que tu te lances dans la série vraiment, t'es happé par cet univers, tu partages. Elliot est en voix off en permanence, et ça le rend au final très très proche de nous, ça nous fait nous sentir très très proche d'Elliot. On a vraiment l'impression de rentrer
un
dans
peu
sa tête.
Comme Meredith dans Grey's Anatomy, quoi, c'est ce que tu nous expliques sur l'utilisation de la voix off.
Non, c'est... Arrête, elle n'est pas si mauvaise ces dernières années, l'utilisation de la voix off dans Grey's Anatomy.
Non, mais en général, moi, quand je parle de Grey's Anatomy, c'est une façon de faire un compliment pour une série
si
je fais une référence à...
D'accord, non, mais bah, ouais. Les 6 premières années de monologue de Meredith Grey, on s'en serait bien passé, je crois.
À mon avis, il faudrait qu'on se fasse une intégrale de Grey's Anatomy.
Mais et sincèrement, je suis prête à le faire, j'ai très envie de le faire. Je suis totalement partante et je décrirai chaque saison dans un irisine treatment dans lequel on me verra petit à petit sombrer dans la folie des sentiments amoureux et la folie de Meredith Grey. Quand je dis folie, j'ai le droit d'utiliser ce terme, c'est comme le N-word que seuls les noirs ont le droit d'utiliser. Moi, j'ai le droit d'utiliser le terme folie comme je veux. Ça aura servi à quelque chose, mon passage en asile. Yeah! Donc, oui, non, c'est une série particulièrement prenante et perturbante à partir du moment où on rentre vraiment dans la tête de ce mec. Et à tel point que, voilà, on peut en arriver à douter de l'existence même de Mr. Robot.
Et en tout cas, comme Jus, mais tu pourrais prendre la parole pour le dire, mais tu l'as dit très très bien dans ton article.
Je pense qu'il a rien besoin d'ajouter parce que son article se suffisait à lui-même.
Exactement.
On va à peu près paraphraser
ce que tu as dit, ce sera beaucoup moins brillant. Je pense qu'on oubliera dans ce qu'on dit la moitié des choses extrêmement intelligentes que tu avais dites. Mais en gros, ce qui est assez chouette de ce point de vue-là, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ce Mr. Robot, si ce personnage est issu de l'imagination du héros ou s'il existe vraiment. Et au final...
Quoique dans les 2 derniers épisodes, on le voit quand même interagir avec d'autres personnes. On le voit notamment interagir avec un des autres hackers.
Ouais, ouais.
Donc,
mais donc c'est ça, on ne sait pas vraiment si...
On ne sait pas vraiment qui ce qu'est ce Mister Robot.
Et fondamentalement, comme ce n'est pas ça qui est vraiment important...
Voilà, c'est le genre de série où s'il y a un twist, ben... ça aura été un twist qui aura réellement été préparé. Donc ce ne sera pas réellement un twist.
Ce ne sera pas un twist, c'est ça.
Ce ne sera pas un Shyamalan, en gros. Ce sera vraiment un twist prévisible. Ou plus une révélation, un peu.
C'est ça, il y a un côté dans ce qui est fait qui est... on ne berne pas le téléspectateur pour le surprendre 10 épisodes plus tard en disant « Ah, vous n'avez pas vu ça, on est tellement plus intelligent. » C'est, bah, on joue avec le spectateur, avec son accord, ça c'est plutôt futé.
Ça me fait penser à ce que faisait, ce qu'a fait dans un genre totalement différent, Funny Games, le film d'horreur. C'est un Home Invasion, et en fait, un des Home Invaders... interagit particulièrement avec la caméra. D'ailleurs, à un moment, spoiler alert, c'est excellent parce que...
Mais c'est le film de...
Haneke.
Oui.
Ouais.
De l'Autrichien. Non, j'ai vu la première demi-heure, j'ai trouvé ça trop perturbant.
Tente la version américaine.
Avec Juliette Binoche?
Non, la version américaine avec Naomi Watts. Et Michael Pitt.
Ah, mais je dois confondre...
Et Tim Roth. Peut-être que tu confonds... tu dois confondre avec La Maison sur la Colline.
Peut-être pas. Bref.
Bref, oui. Non, donc, à un moment, dans ce film, son coéquipier dans la torture de cette famille se fait tirer dessus et est buté sur le coup, donc. Et lui, il réagit, il est là. Putain, où est la télécommande ? Il va, il cherche la télécommande dans le canapé, il la trouve, il rembobine le film juste avant le moment où son pote se fait shooter et il empêche la meuf de se sauver. Tu sens vraiment que en fait le spectateur est prisonnier du film, c'est exceptionnel. Et que les mecs de la série nous torturent tout autant qu'ils torturent cette famille. Et là, Mr. Robot, c'est pareil, on est vraiment... dans la tête d'Eliot, on est vraiment des observateurs qui font presque partie de la série, je trouve. Et d'ailleurs, désolée, mais là, je vais rebondir par rapport à ce que tu disais. Tu pointais que c'était cadré de manière à ce qu'on voit toujours les plafonds et qu'on voit beaucoup, qu'on voit les personnages dans une manière finalement peu télévisuelle. Mais pour moi, c'est vraiment une manière de nous placer en tant qu'observateurs. Presque qu'observateur muet de la scène, comme si on était nous-mêmes assis sur un siège de métro, comme si nous on les regardait cachés derrière un coin de mur. Vraiment, pour moi, ce cadrage, ça donne une immersion encore plus totale dans la série. Qu'en penses-tu, GG?
Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit.
Oh, je boude maintenant.
Parce que tu as repris essentiellement ce qu'avait écrit Jus. Calme-toi. Voilà.
Non, j'ai pas repris, je l'ai démonté. Aïe! Petit roquet qui se vexe facilement. Mais oui, donc regardez Mister Robot, c'est excellent.
C'est ça, en gros, on dira pas mieux là-dessus. Hein.
Tout à fait d'accord avec toi.
Passons sur une série sur laquelle il va être quand même plus facile de discuter, puisque c'est quand même un petit peu moins subtil, même si c'est pas un défaut. Quand je dis ça, c'est Sense8, la série diffusée sur Netflix depuis quelques mois.
Oui, quelques mois, oui, quand même quelques mois.
C'est écrit par les Wachowski.
Les frères et sœurs Wachowski.
C'est pour ça que j'ai dit les et je me suis arrêté puisque
oui, non, mais
je
moi,
pouvais genre, pas dire.
Moi, je kiffe de le dire.
Les frères et sœurs Wachowski. Et
c'est pour faire un pied de nez à tous ces connards qui s'entêtent à continuer à les appeler les frères Wachowski. Ils existent.
Et également Joseph Michael Straczynski, qui est l'esprit, le créateur de Babylon 5, une série de science-fiction qui a marqué beaucoup de gens dans les années 90.
Pas moi, puisque je ne l'ai pas vu. Toi, oui ?
Mais ça a été mon rattrapage de l'été.
Ah oui, je t'ai vu échanger à ce propos sur Twitter avec quelqu'un.
Avec plein de gens même, puisqu'apparemment c'est une série qui a été regardée par plus de 3 personnes. Là j'en suis à la saison 5 et qui est moins bien...
Il y a combien de saisons au total ?
Il y en a 5.
Ok,
Donc je suis bientôt à la fin. Et moi, dans Sense8, je retrouve ce qui me plaît à peu près dans Babylon 5, c'est-à-dire, alors effectivement, des dialogues pas très subtils, des personnages un peu caricaturaux, et au final, qui dégage une sincérité assez incroyable. En fait, c'est une série sur laquelle on pourrait reprocher tout un tas de choses. On n'a pas donné le pitch, mais en gros, c'est quoi ? C'est 8 personnes à travers le monde. Qui sont connectés. Moi, j'ai vu que la moitié de la saison. Hein. Je suis en train de regarder ça en ce moment. Ouais, pas vu en entier.
Alors moi, j'ai commencé à accrocher à la série qu'à la fin de l'épisode 4, je crois que c'est le moment où ils chantent tous ensemble.
Ah ben c'est marrant. Et ce que je disais, c'est que j'avais lu partout qu'en gros, on commençait à aimer que après avoir vu une bonne quantité d'épisodes, que c'était un truc dans lequel il fallait s'immerger, prendre le temps, attendre. Fondamentalement, moi, je ne t'ai pas trouvé. Au bout du deuxième, j'étais relativement à fond.
Oui, mais c'est parce que tu as un esprit éclairé. Tu écris pour Perdusa, après tout, quand même.
Ou c'est le fait que j'ai intégré que tout le monde trouvait ça super, alors finalement...
Non, parce que tu écris pour Perdusa. Donc, si tu avais intégré que tout le monde trouvait ça super, tu sais très bien que, dans notre contrat, c'est stipulé que si tout le monde trouve une série super, en tant que Perdusa, on est obligé de la détester. Le fameux contrat qu'on cache aux gens sur Twitter.
C'est vrai, mais maintenant on est passé à un nouveau contrat où on essaye de déjouer les attentes, donc c'est-à-dire qu'on va aimer les choses que tout le monde aime. C'est nouveau.
C'est vrai, merde. Oui. Je savais que j'aurais pas dû cliquer sur accepter les conditions sans lire les conditions. Oh, iTunes, c'est ta faute.
Et donc on suit quoi, 8 personnes à travers le monde.
D'où le nom Sense8, avec un superbe jeu de mots puisque c'est Sense8.
Alors, je sais pas ce que c'est, moi, ça, un Sense8. C'est un truc qui existe ou c'est un nom qui a une espèce de concept qui a été créé spécialement pour la série ?
Alors,
on
très
va
bonne
regarder
question.
Ça. Bon, mais, et en tout cas, on suit la vie de personnages qu'on dévie un petit peu extraordinaires dans leur quotidien. Mais,
Alors, Sense8, c'est basé sur le mot Sense8 qui est de percevoir par l'un de ses sens. Ou d'avoir une sensation physique. Mais les Sense8, c'est un concept inhérent à la série, qui sont donc ces gens qui ont un lien télépathique entre eux tout autour du monde, et qui sont liés par le fait qu'ils soient tous nés le même jour.
Mais je savais pas.
Oh, spoiler, désolé.
Bah merci.
Bah tu vois, ça t'apprendra à regarder une série hyper après tout le monde.
C'est un vrai problème. Donc voilà, j'ai dit le mot que je voulais dire, c'était sincère à propos de la série. Vas-y, rajoute-en.
Honnête. Non, je vais pas dire ce mot, t'es fou.
Non, mais c'est une chouette série, c'est un peu surprenant.
Surprenant, voilà, c'est très surprenant, mais c'est très particulier et c'est très immersif. Dit-elle encore une fois. Non, c'est très touchant. Moi, c'est une série qui m'a beaucoup touchée, qui m'a presque réconciliée. Enfin, c'est pour ça que j'ai trouvé une espèce de... Il y a eu une espèce de clash, parce que juste avant Sense8, je regardais Happy-ish, qui était une série tout de même très cynique.
Ouais.
Ensuite, tu passais à Sense8, qui était une série qui est l'inverse même du cynisme. Et après, j'ai enchaîné sur Unreal, qui, pour le coup, question cynisme, il va fort. Et donc, voilà, Sense8, c'était mon espèce de petite bulle d'humanité au milieu de tout ça. On suit des intrigues, on suit donc plusieurs intrigues, une pour chaque personnage, plus ou moins.
C'est ça.
Qui vont finalement se regrouper.
Ah mince.
Et pas que au travers de scènes d'orgie. Ils vont pas tous se regrouper, hein. C'est pas une Heroes. C'est pas... ils font pas une Heroes. Mais non, ils vont par lien télépathique, justement, et tout ça. Enfin, leurs intrigues vont un peu se rejoindre. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Et ça montre que l'amour, c'est bien, et que tuer des gens dans des chorégraphies élaborées, c'est aussi très bien. C'est donc une série parfaitement équilibrée. Comme un film de Michael Bay.
Tu parlais de Unreal, on va essayer de développer un peu là-dessus. Peut-être que là-dessus, on aura des choses.
Bah oui, Unreal, qui est donc une série. Il y a 3 ans, quand on ne s'attendait pas à une série de la part d'une chaîne, ça, c'était Sundance Channel avec Rectify. Il y a 4 ans, 5 ans, quand on ne s'attendait pas à une série de qualité d'une chaîne, c'était AMC. Bah, cette année, la chaîne qui nous surprend en nous filant une série de qualité, c'est Lifetime.
En même temps que USA, on ne s'attendait pas à une série
réussie sur USA. C'est vrai que USA Network série de, aussi...
De Suits et de...
Est-ce qu'on
et de
doit
Burn Notice.
Est-ce qu'avec en plus Netflix aussi, c'est un nouveau, un newcomer en quelque sorte. Là, du coup, on fait un début d'épisode qui parle pas mal de newcomers. Je trouve que les séries les plus originales, au final, elles nous arrivent d'endroits où on les attendait pas, en fait. Et ça fait plaisir de voir qu'on est peut-être dans un âge où de plus en plus de chaînes vont essayer de se lancer dans des séries vraiment ambitieuses, on va dire.
Ouais, ou qui ont une identité forte. Qui ont une identité forte.
Mais ça, FXX, ben, la chaîne spéciale comédie de FX, le fait aussi. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus pour notre site. Ah, tu l'as aimé, Jules, vraiment ? Merci. Donc, Jules me demande de vous dire qu'il faut que vous alliez lire mon article FXFFS. Ou FXXFFS. Je sais même plus le nom de l'article, mais regardez dans les Iris in Treatment, c'est simple. Oui, Jules, voilà, j'ai fait de la publicité pour le site, tu es content. Quoi, non ? Il dit que j'ai fait de la publicité pour son auteur préféré.
Non. Oh.
Il est mignon.
Mais oui.
Il est trop chou. Avec sa petite voix.
Donc Unreal, qui est diffusé sur Lifetime, qui a été créé par Martin Oxon, qui en gros a jamais rien fait de potable jusqu'à présent, si ce n'est...
Bah elle bossait sur Buffy Angel quand même.
Oui c'est ça, enfin, mais vaguement de loin, elle a fait la plus mauvaise saison de Buffy.
Ah ouais?
La
c'est
6.
Elle qui a fait la 4? Non, la 6, elle est pas, c'est pas la plus mauvaise, je suis pas d'accord. Elle est bien la 6.
Elle a fait...
Elle est vachement bien la 6.
Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait Girlfriend's Guide to Divorce.
Mec, dans la 6, il y a Going Through the Motions, putain.
Oui, comme dans tout un tas de mauvaises saisons, il y a parfois un bon épisode.
Regarde
la saison 3 de Community, par exemple. Donc Martin Oxon, qui est en gros la pro des séries qui est sur Unreal et qui accompagne une dame qui s'appelle Sarah Gertrude Shapiro, qui était une ancienne producteur sur des émissions type Le Bachelor ou Real Housewives, qui avait fait un court-métrage basé sur son expérience et qui...
Ah, je savais pas pour le court-métrage. Tu l'as
qui,
vu
non.
Okay.
Et qui.
Jules, tu l'as vu? Ah, Jules nous dit que c'est. Jules nous demande de vous préciser que c'était très bien ce court-métrage.
Et
je suis hallucinée par le nombre de choses que tu vois, Jules. C'est impressionnant. Tu es un homme plein de surprises.
Et donc, en utilisant comme base ce court-métrage et son expérience, elle en a tiré avec Martin Oxon les 10 premiers épisodes de Unreal qui suit deux femmes.
Une interprétée par Shiri Appleby qu'on a Appleby Evil Buy,
la fille de Roswell quoi,
la fille de Roswell,
qui elle donc joue le rôle d'une productrice
assistante
qui en gros sa fonction sur le tournage de l'émission qui sert d'univers à la série, qui est un décalque du Bachelor.
Voilà.
Son rôle,
qui
c'est de s'occuper des...
Ça s'appelle
Everlasting.
Everlasting, voilà.
Et son rôle, c'est de s'occuper, entre guillemets, des concurrentes pour faire de la bonne télé, la bonne télé-réalité, c'est-à-dire essayer de les faire dire le plus de saloperies sur les autres et de les faire ingurgiter un maximum d'alcool pour lever toutes leurs inhibitions.
En même temps, c'est aussi ce qu'on aime sur Project Runway, qui a repris.
Ouais.
T'aimes pas Project Runway?
Moi, j'aimais bien Project Runway quand ça passait pas sur Lifetime.
Mais regarde, la dernière saison était géniale, il y avait une robe superbe dedans. Tu devrais... Une robe, en fait, qu'ils avaient fait un runway. où il y avait de la pluie qui tombait. Donc les habits devaient être prévus pour être portés en temps de pluie. Et un des couturiers avait
C'est Project Runway Bretagne.
Un des couturiers avait fait une robe dans les coutures desquelles il avait inséré du colorant. Ce qui fait que quand la pluie tombait dessus, petit à petit, la robe se couvrait de couleurs. À certains endroits, c'était superbe. L'effet était incroyable. C'est la plus belle robe que j'ai vue dans Project Runway. Tu as loupé un grand moment de télévision. Et je dis ça sans aucune ironie.
Ouais, mais moi, si je te disais toutes les choses formidables que j'ai vues dans les différentes éditions de Real Housewife, tu te rendrais compte que toi aussi, tu passais à côté d'énormément de choses. Et finalement, tu te rendrais compte que ton temps est vraiment trop pris par Community.
Alors que je devrais le consacrer à des choses bien comme la télé-réalité.
Exactement. Bref, Unreal suit ce personnage de Shelley Appleby et celui de sa chef, en gros, qui la force à faire tous les trucs horribles.
Qu'il faut faire pour avoir de la bonne télévision.
Et donc se posent les dilemmes pour cette jeune fille de savoir si elle doit continuer à manipuler les gens.
Ou si elle vaut mieux que ça au final.
Ou si elle vaut mieux que ça, mais c'est la chose qu'elle sait faire le mieux, donc doit-elle abandonner ce qu'elle sait faire le mieux pour devenir quelqu'un de normal ?
Pourquoi ? Jules est en train de me dire qu'il a l'impression que c'est ce qu'il fait avec Perdusa. Tu vois, mon chat ? Non. Et oui, il y a quand même toute une autre équipe autour d'eux.
Ils se partagent
parce que c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus pervers dans la série, c'est qu'au début de la série, ils se partagent les différentes filles et ils font des espèces de petits concours entre eux pour savoir la fille de qui va rester le plus longtemps dans l'émission.
Mais je pense que c'est un peu comme ça aussi dans la réalité. Ce qui est intéressant dans Unreal, c'est tout le côté coulisses qui, fondamentalement, n'est pas complètement réaliste. Mais on sent qu'il y a tout un tas de petites choses.
Apparemment, la créatrice avait dit en interview que c'était assez réaliste.
Ouais, mais le fait, par exemple, que ce soit diffusé en temps réel...
Ah oui, voilà, ça c'est le gros truc que j'ai pas compris, c'est le fait que ce soit diffusé en temps réel.
Après, il y a des émissions genre Big Brother aux États-Unis, c'est comme ça, c'est diffusé en temps réel, c'est monté...
Oui, il y a ce genre d'émission qu'aux États-Unis. En France, vous n'avez pas d'équivalent.
Oui.
Absolument pas. Un équivalent à Big Brother en France, non mais... Jamais ça pourrait arriver, ce genre de choses.
Non, mais la différence, c'est que avec le Loft, c'était un truc tous les jours où...
Je parlais même pas du Loft, je parlais d'encore plus récent aussi.
The Secret Story
C'est comme ça que ça s'appelle ? Ouais, oui, le truc... Ah bah oui, ils ont un secret, oui, tout à fait.
Mais donc là, dans Big Brother, c'est tous les trois jours, il y a une émission d'une heure où ils montent les rushs des trois derniers jours. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi suivre les feeds en direct et voir le travail des monteurs et de voir les histoires qu'ils veulent raconter à partir des rushs. Ça, c'est rigolo. Donc, Unreal nous montre ça dans le cadre d'un soap. Il y a plein de choses bien vues, assez futées. J'aime beaucoup le personnage donc, de Miss Roswell qui a envie de croire à l'amour vrai, passionné, ce qui est mis en scène dans Unreal, une chose qui, en gros, en laquelle ne croient pas les producteurs, qui jouent avec ça, qui jouent avec cette recherche de l'amour vrai chez les candidats et les spectateurs.
C'est ça qui est beau dans la relation entre Miss Roswell et Miss Badass, la productrice. C'est que la productrice voit clairement en Miss Roswell une future elle, là où Miss Roswell est vraiment plus hésitante.
Elle est plus hésitante et elle a envie encore d'y croire. Donc ça, c'est rigolo quand il y a toutes ces données qui s'entremêlent. C'est même parfois brillant. Le pilote, il est brillant. Il se passe dans deux décors. En 45 minutes, toute l'ambiance est installée. Toute la réflexion sur la télé-réalité, l'image de soi, la manipulation est mise en place. Après, je trouve que c'est moins brillant. Y a un petit côté soap qui pourrait me plaire, mais qui, je trouve, apporte pas grand-chose à la série, voire la dessert.
Moi, je t'avouerais que j'adore ce côté soap parce que ça fait d'Unreal. Là où Unreal, je pense que s'il n'y avait pas eu ce côté soap, ça aurait été au final une émission assez enfin une série assez pesante, parce que c'est quand même émotionnellement, moi c'est quand même des trucs que je trouve très durs ce qu'ils font, ce qu'ils infligent. Et du coup, je pense que le côté soap permet de faire pencher Unreal plus du côté
de la comédie noire,
de la comédie noire, que du côté où ça aurait pu faire limite un mode de, une sorte de rectify très très sombre.
Oui, mais je trouve que c'est pas suffisamment réussi pour atteindre l'objectif. Moi, il y a des fois, je sors de la série en me disant c'est pas possible de jouer aussi mal, ou c'est pas possible d'avoir eu cette réplique.
Donc, en matière de coulisses d'émission, là, il y a évidemment une question qui se pose. GG, à tes yeux, qu'est-ce qui est mieux, Unreal ou Studio 60 on the Sunset Strip?
Ah, mais c'est sûr, là, c'est trop compliqué. C'est vraiment un dilemme terrible. C'est choisir entre Citizen Kane et
Citizen Kane 2.
Et Citizen Kane 2, qui était vraiment l'un et l'autre exceptionnel. C'est vrai que Citizen Kane 3, c'était moins bien. Surtout qu'il y avait la fille d'Orson Welles qui jouait dedans.
Et Citizen Kane 4 avait absolument rien à voir avec les trois volets précédents. Mais par contre,
ouais, il y en a marre de ces reboots. Si... Le reboot de Sam Raimi, il est super.
Citizen Kane 5, ça c'était vraiment bien. Tu sais, c'est quand The Rock a rejoint la production dans Citizen Kane 5 et ils étaient au Brésil, tu sais.
Ah, et après, c'est le film sur le tournage de Citizen Kane 2 et des coulisses. Et on en revient à Unreal.
Voilà, tout à fait. Tout est lié. Tout est lié. On aura fini par l'assimiler au bout d'un nombre incalculable d'années. Tout est lié. Moi, Unreal, j'aime aussi son côté soap, j'aime le côté histoire d'amour entre Shiri Appleby et l'anglais qui s'appelle Pierre, je crois.
Pierre.
Oui, bah oui, Pierre l'anglais.
Ah là là.
Ou en dehors de Unreal, j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui s'appelle Pierre l'anglais. C'est pas un vrai nom, ça. Donc j'aime énormément leur relation. Ouais, moi c'est un truc qui dès le début m'a fait accrocher, et je savais, le pire c'est que en aimant cette relation, j'avais totalement conscience que je ne devrais pas aimer cette relation à ce point là j'étais là, je sais que c'est un des aspects les plus bas de la série, parce que la série effectivement a des aspects qui sont vraiment de très haut niveau, mais il y a aussi ces aspects un peu plus passe-partout du soap. Mais moi, je trouve pas que ça dessert la série. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
On verra comment ils vont s'en sortir pour la saison 2, puisqu'il y a une saison 2 qui a été commandée.
Moi, j'aimerais bien, en fait, je voyais bien... Ah, t'as fini, hein?
Oui, j'ai fini la saison.
Alors, spoiler alert sur la fin de la série. Si vous n'avez pas vu la fin de la série...
Oh. Alors, grosse déception, parlons des 5 dernières minutes. Cette saison, elle se serait terminée sur la scène entre les deux filles là, qui sont allongées.
Ouais.
Elles se menacent de mort tout à mot couvert, tout en se disant qu'elles s'aiment. C'est l'une des meilleures scènes de la série.
Tu parles de la scène entre Miss Badass et Miss Roswell.
C'est ça, les deux. Et alors? Et c'est là où...
C'est pas ça la dernière scène de la série?
Ben non, c'est pas ça la dernière scène de la série. La dernière scène de la série, c'est le mec qui joue hyper mal le caméraman, qui toque à la porte de la mère de Miss Roswell, et qui lui dit...
Ah oui, c'est vrai.
Votre fille va pas bien, ou je sais pas quoi, il faut vraiment qu'on l'enferme, ou je sais pas quoi.
Pour retomber dans la partie la moins intéressante de la série, ça c'est même pas la partie soap, c'est la partie... Qu'est-ce que ça fout là?
Donc c'est ça, peut-être que je me suis mal exprimé quand j'ai dit le côté soap, enfin c'est le côté soap mal foutu, moi
oui.
Que ce soit le soap, j'adore ça.
Mais pour moi c'est le seul aspect mal foutu du show, c'est
le
vraiment
le petit ratage, le manque, mais il est probable que avec l'accueil hyper positif qui a été réservé à la série, elles aient plus recours à ce genre de petits stratagèmes.
Pour insérer une tension au final inutile. Elle est pas nécessaire à la série, cette tension. Elle est clairement artificielle. C'est le seul aspect bizarrement artificiel du show, c'est ce côté vraiment il y a une sous-intrigue où sa mère veut qu'elle soit sous médicaments, et sa mère et sa psy très inutile, très très vraiment totalement on pouvait s'en passer quoi. Parlons-toi d'un show que tu as beaucoup aimé, que moi personnellement, dont je n'ai vu que 3 épisodes.
Il s'agit d'Another Period.
Tu ne la regardes pas?
Non, il y a Fertis qui la regarde avec grand plaisir aussi.
Oui, mais
aussi.
Fertis n'est pas là avec nous ce soir, enfin aujourd'hui.
Oui, mais Fertis et moi, c'est un peu comme deux personnages de Sense8.
D'accord.
On partage un cerveau.
Vous en partagez un seul, par contre.
Ouais, c'est ça le souci voilà. Dans Sense8.
C'est pour ça que vous ne pouvez plus être écrire. C'est pour ça que Fertis a quitté Perdusa pour que GG puisse écrire pleinement sa qualité de Sense8.
C'est ça. Donc Another Period, c'est une comédie qui est diffusée sur Comédie Centrale. Ça a été créé et c'est joué par deux femmes que je connaissais pas. Mais,
alors que moi je connaissais pour le coup Ricky Lindholm qui faisait partie. Qu'on avait vu dans Garfunkel & Oates, mais qui surtout faisait partie de Garfunkel & Oates depuis déjà bien longtemps. Un groupe, si vous ne le connaissez pas, découvrez-le, il est hilarant. C'est des deux comédiennes qui font de la musique, mais de la musique parodique, enfin pas parodique, mais ouais, comique.
Amusante.
Amusante, ouais, à la Flight of the Conchords. Et pour moi, encore plus jouissif que Flight of the Conchords. Elles ont fait une série qui pour le coup était vachement moins bien réussie que Flight of the Conchords qui s'appelle Garfunkel & Oates tout simplement que je devais probablement être une des seules à regarder à la réduction, à la rédaction apparemment vu que tu n'as pas entendu tu n'en as pas entendu parler ouais, Ricky Lindholm donc et Natasha Leggero qu'on connaissait surtout elle pour ses participations, enfin en tout cas moi je la connaissais surtout pour ses participations fréquentes au roast organisé par Comédie Centrale. Elle avait été brillante dans celui de James Franco. Il me semble qu'elle était aussi là dans Justin Bieber, dans celui de Justin Bieber et qu'elle était encore une fois très drôle. J'avais regardé un petit peu de son stand-up, je crois. Peut-être que je confonds avec une autre, mais il me semble. Elle, c'est vraiment une femme douée. C'est vraiment une femme douée et drôle.
Alors, elles sont hilarantes dans ce qui se résume à une parodie mélangeant, en gros, Downton Abbey et les Real Housewives, puisque bah, on suit au cours d'épisodes de 20 à 25 minutes la difficile vie des grands aristocrates anglais et de leurs domestiques filmés à la Real Housewives, dans l'esprit Real Housewives. Et, bon, alors c'est vrai que les 3-4 premiers épisodes exploitent assez bien cette idée qui pourrait être un sketch d'émissions comme les trucs que vous regardez là, Drum et toi, Saturday Night Live,
D'accord, comme ces
trucs, choses comme ça,
ces petites émissions ultra
confidentielles,
voilà, j'allais dire underground, mais tu les dis mieux que moi et en français, donc oui, des émissions confidentielles à la Saturday Night Live.
Au bout de 4-5 épisodes, on sent que les deux filles maîtrisent leur concept, qu'elles ont autre chose à dire que simplement faire une parodie qui exploiterait les tropes de ces deux choses. Et ça devient quelque chose d'assez jouissif, particulièrement sur la façon avec laquelle elles abordent le féminisme. Elles utilisent ce que font les séries historiques, c'est-à-dire qu'elles se placent 100 ans en arrière pour avoir une plus grande liberté pour dire des choses sur la société actuelle. Et on rigole parce que qu'elles étaient marrantes, ces filles de 1920, à pas penser qu'elles pouvaient
voter. Non, les filles pleurent devant ça parce qu'elles se rendent compte que c'est pas loin de la réalité.
Et qu'en fait, on est vraiment, vraiment pas loin de la réalité. Enfin, c'est toujours très, très bien vu. C'est toujours très drôle. Et pour achever de vous convaincre quand même, il y a Christina Hendricks qui est récurrente dedans. Il y a, comment elle s'appelle, Paget Brewster joue la matriarche, qui est à mourir de rire.
Alors on la voit dans les 3 premiers épisodes.
On la voit dans les 3 premiers épisodes.
Alors
bah oui.
Parce que moi vraiment c'est pas une série à laquelle j'ai accroché. Vu que tu l'avances si bien, je vais lui donner une chance. Et pas uniquement parce que j'espère que du coup tu feras pareil pour Rick and Morty.
Alors c'est bon, moi les dessins animés, c'est
mais
pas des séries
aussi,
quoi.
Mais aussi, il aime Rick and Morty. Je aussi aime Rick and Morty. Tu peux même aller lire son article sur le site, je suis certaine qu'il a écrit sur Rick and Morty. Quoi, tu vas le faire si tu ne l'as pas encore fait? Là, merci de me soutenir. C'est pour ça qu'on fait un si beau couple, c'est parce qu'on se soutient mutuellement en permanence.
Donc c'est vraiment, à mon avis, la chose la plus drôle qui est diffusée à la télé cet été.
Ok.
Tout simplement.
Tout simplement.
Tiens, en parlant de dessins animés pourris qui disent jamais grand-chose.
Oui, un dessin animé pourri qui dit jamais grand-chose. L'exemple même de cette affirmation, c'est évidemment BoJack Horseman, que Netflix nous amène. Encore une fois, Netflix, merci beaucoup. J'espère que si on remercie assez Netflix pendant ce podcast, ils vont nous filer des accès prioritaires à leur show.
Non, non, nous, notre objectif, c'est rester au même objectif. Niveau que les autres, ne pas avoir de passe-droit, ne pas regarder
voilà, on est...
Daredevil en avance. En même temps, ça, ce serait plutôt...
On est vraiment pour l'éthique dans le journalisme série TV.
Exactement.
Sauf que nous, on est féministes en plus. BoJack Horseman qui nous parle donc de BoJack Horseman qui était une star et qui était dans une comédie très célèbre dans les années 90.
Une sitcom familiale qui est en gros un croisement entre Arnold et Willy et Family Ties, la sitcom avec Michael J. Fox.
Que je n'ai jamais vu. Il était dans une sitcom, Michael J. Fox, à part Spin City.
Mais ouais, il est dans une sitcom qui s'appelle, je sais pas comment c'est le titre en France, ça s'appelle Family Ties. C'était diffusé après la sitcom très très populaire dont on ne peut plus parler suite à ce qui est arrivé.
Ah oui, on peut toujours en parler, la série du violeur, le Cosby Show.
C'est ça. Je pense que j'ai dit 250 fois, c'est ça déjà. Et si c'était... c'est une sitcom familiale. Au départ, c'est centré sur les deux parents qui sont des gens très, très libéraux dans l'acception du terme américain. C'est des gros bobos des années 80.
D'accord.
Avec leurs trois enfants. Et ils ont un de leurs enfants qui est un ultra conservateur, qui est joué par Michael J. Fox. Et au bout de...
Ça a l'air cool.
Mais au bout d'une dizaine d'épisodes, les scénaristes se sont rendus compte que le personnage qui fonctionnait le mieux et qui les intéressait le plus, c'était celui de Michael J. Fox. Ils ont changé un peu l'esprit de la série et ils l'ont construite autour de Michael J. Fox qui devient le héros, et c'était une grosse star, c'est ça qui l'a fait connaître et tout. Il a eu des Emmys pour cette série qui est... j'en ai vu 7 épisodes pour l'instant.
D'accord, voilà, c'est ce que j'attendais, c'est le moment où tu avoues que même sur les séries qui ont 20 ans, tu as du retard.
Oui, mais en même temps, tu me forces à regarder des mini-extraits de Rick et Morty.
Mais parce que c'est génial, cet extrait. C'est incroyable qu'ils fassent ça dans une série TV, dans un dessin animé. Et tout ce que Dan Harmon fait et Justin Roiland font dans Rick and Morty, le dessin animé, oui, c'est génial. Et c'est très sombre et c'est très adulte. Et c'est comme BoJack Horseman, au final, pour ça. Parce que BoJack Horseman, ça nous parle donc de sa vie de has-been total. Ça nous parle d'un homme cheval. Oui, c'est une série où les animaux sont anthropomorphisés.
Ouais.
Oui, je sais que tu es fière de moi pour avoir placé
anthropomorphisé. Beau, hein.
Ouais, je sais. Oui, je sais. Je suis celle qui s'exprime le mieux sur notre site. Arrête, c'est gentil. Je rougis. Et donc, oui, BoJack Horseman, un cheval anthropomorphisé qui est un has-been total, alcoolique, qui ne fait rien de son temps, qui le passe à traîner avec son colocataire dont la voix est faite par Aaron Paul de Breaking Bad, hein, qui trouve là encore une fois un rôle à la Jesse de petit stoner paumé, enfin de petit camé paumé. Tu vois duquel je parle ou...
Oui, j'ai vu la série cette semaine. Je vois à peu près
toi,
de qui tu parles.
Je sais pas, hein, peut-être que tu te souviens mieux des séries des années 80 dont tu as vu cet épisode avec Michael J. Fox que des séries que tu as vues la semaine passée avec un homme cheval.
Je m'y suis mis sur le tard à cette série.
Tu t'y es mis sur le tard.
Non, mais alors le visuel, les dessins moches.
Oui, mais c'est le principe, ça rend, c'est tout le charme de la série, c'est ces dessins ultra moches.
Mais c'est difficile de prendre la résolution de se lancer.
J'avoue que je suis un peu d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'il me semble que BoJack Horseman, il m'avait aussi fallu du temps pour me lancer dedans. Tout comme Rick and Morty au final. Rick and Morty aussi, ça m'avait demandé du temps pour me lancer dedans. C'était la série à la base Rick and Morty, j'avais vu le premier épisode, j'avais pas accroché. Et du coup, quand les gens me disaient « Oh, tu regardes l'autre série de Dan Harmon, Rick and Morty », je mentais et je disais que je me la gardais pour l'été. Je me la garde pour l'été, sachez-le, en langage de sériephile, ça veut dire « J'ai pas envie de la regarder, j'ai envie que tu arrêtes de me dire de la regarder ». Voilà, si vous avez un sérifile autour de vous, vous savez que c'est vrai. Et j'espère que vous êtes sérifile si vous écoutez ce podcast. Si vous ne l'êtes pas, je ne comprends vraiment pas ce que vous faites là. Donc oui, qu'est-ce que je disais ?
BoJack Horseman, c'est difficile de s'y mettre.
C'est difficile de s'y mettre, Rick and Morty aussi. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal, tu peux encore t'y mettre, tu dois encore t'y mettre.
Non, génial. Moi je te rappelle, j'ai la saison 4 et la saison 5 de Teen Wolf à rattraper.
Non, regarde Rick and Morty d'abord, je t'en prie. Oh non, pitié, sors tous ces horreurs que sont Teen Wolf. BoJack Horseman, c'est superbe. C'est une putain de réussite. C'est sombre, c'est ça qui fait l'intérêt de la série. C'est qu'au début, ça commence comme un show qui est juste con et drôle. Et en fait, au final, c'est un show qui est super profond et super sombre et drôle.
Bah oui, je vais pas dire mieux. Il y a ce côté satire d'Hollywood qui au premier abord fait pas envie parce que c'est des choses vues et revues et on a l'impression que c'est devenu le sujet principal des créateurs hollywoodiens, c'est de parler du métier qu'ils font. Mais là je trouve que c'est vraiment réussi parce que ça se base autour du monde des sitcoms des années 90 et ça c'est rigolo. Mais effectivement ce que tu dis, progressivement au cours de la première saison, moi j'ai vu que la première saison et le premier épisode de la deuxième, en milieu de saison, et c'est pas pour dire que les 7 premiers ou les 6 premiers sont atroces et c'est une plaie à regarder, c'est sympathique, ouais. Mais effectivement quand on regarde les 6 premiers, on perd pas son temps, on est content, on passe un bon moment, mais on se dit pas non plus que c'est la série qu'éventuellement il fallait absolument rattraper. Et puis en milieu de saison, mais capitalisant sur tout ce qui a été fait depuis le début, parce que c'est quand même très très intelligent.
Et il y a un vrai character development. C'est pas une de ces séries à la South Park dont tu peux regarder un épisode d'une fois de temps en temps, c'est vraiment une série qui se suit sur la longueur.
Ouais, et qui permet d'aborder des sujets aussi important que le sens de la vie, le sens de sa carrière professionnelle, la valeur des relations,
la solitude,
enfin
la solitude sous toutes ses formes en fait, la solitude qu'on s'inflige soi-même, surtout la solitude qu'on s'inflige soi-même, j'ai l'impression, mais ça en fait un show très
et quand on dit ça, il peut y avoir un côté un peu chiant, un peu intello.
Ah non, c'est pas du tout intello, justement.
C'est pas du tout pédant, c'est vraiment...
En plus, c'est ça, c'est que c'est l'équilibre... En fait, c'est une série de stoner, mais ultra intelligente. Pour moi, c'est vraiment la série que j'ai matée en fumant de la weed. Ça passe totalement dans ces moments-là, et c'est génial.
Je pense que Teen Wolf, ça passe aussi dans ces moments-là, de cette façon-là.
Oui, il y a beaucoup de séries.
Je pense que
Unreal, c'est pour ça que j'aimais autant Unreal, le côté soap d'Unreal, c'est parce que Unreal aussi, je la regardais quand je fumais de la weed.
Mais alors que si on la regarde à 10h du matin, après 2-3 exercices pour apprendre l'allemand, ça passe aussi très très bien lorsqu'on est... qu'on a les idées à peu près claires.
Vas-y, dis que mes idées sont pas claires, bâtard.
Au moment où tu regardes, tu n'es peut-être pas dans l'esprit le plus...
Et s'ils avaient pensé aux gens dans cet état d'esprit pour écrire la série ?
Parce que éclaire tellement.
Les dessins moches, tout prend son sens à partir du moment où tu te dis que cette série a été faite pour des gens défoncés. Ils étaient là, ok, on va prendre le type le moins cher pour les dessins. De toute manière, ils seront trop défoncés pour remarquer.
Et bien, au-delà de ça, après, on s'habitue aux dessins et on finit par...
Oui, et surtout, il y a des scènes très belles. Enfin, les dessins des personnages, je ne les trouve pas géniaux. Par contre, ce que je trouve très très beau, c'est tous les décors. Je trouve que les décors sont particulièrement soignés. Et le générique est superbe aussi.
Ouais, le générique le passe à chaque fois, mais...
Eh bien, tu devrais prendre le temps de t'arrêter quelques instants, de sentir les fleurs et de regarder le générique de BoJack Horseman, parce que c'est une réussite, ce générique. Ça me fait toujours plaisir de le voir. Et surtout, la première fois que j'ai vu la série, j'avais pas fait spécialement attention au générique, mm-hmm. Mais une fois que tu connais le propos de la série et que tu regardes le générique, tu te rends compte que c'est vraiment c'est à la hauteur d'un générique quel est le genre de générique que les gens se... Ben, c'est à la hauteur du générique de Mad Men au final. C'est vraiment un générique qui sert le propos de la série. Hein.
Non, ouais, c'est vraiment une jolie, jolie découverte complètement inattendue après un an et demi de diffusion de cette série.
Tu vas nous parler d'une série un peu plus récente maintenant. Tu vas nous parler de...
Je vais vous parler de Zoo.
Et Zoo. Pas We Bought a Zoo. Zoo.
Zoo.
Zoo, zoo, zoo. Zoo.
C'est compliqué. Zoo, c'est une série de CBS, une série de l'été.
Vous apprécierez les efforts qu'on a faits sur les effets sonores du podcast.
Parce que, comme tu l'as dit, il faut profiter des choses...
Des petits plaisirs de la vie.
Ah oui, c'est toujours toi, en fait.
Oui. Mince. Désolée, je suis une femme très demandée.
Ouais, moi, je sens la solitude de BoJack Horseman. Je me sens proche de ça. Mon téléphone, alors...
Oui, mais c'est parce que toi, tu es le BoJack Horseman du futur. Moi, je suis le BoJack Horseman des années 80. Tu sais, celui qui prend de la drogue et qui était populaire.
Mm-hmm. Il va falloir que je fume aussi pour comprendre ce podcast.
Genre, le mec qui se désolidarise totalement de l'état d'esprit de ce podcast.
Donc, Zoo en français, c'est créé par des gens qui ont bossé sur Alias, sur Fringe, sur les Tortues Ninja, le film.
Vraiment?
Ouais.
Attends, qui est-ce qui, Michael Bay?
Non, c'est Jeff Pinker et puis tout un tas de gens qui ont bossé sur Fringe, je crois, mais ils bossaient aussi sur October Road, une série que je crois seul Drum a regardé en entier.
Je crois que beaucoup de séries, il n'y a que Drum qui les a regardées en entier.
Le truc où il y a Topher machin là de That 70 Show qui revient dans un bled où tous les arbres ont des feuilles marron.
Oh.
Et il revient dans sa petite ville. Enfin bref, je sais plus ce que c'est. Bon, toujours est-il que Zoo, en gros, c'est donc une série dans l'esprit de Under the Dome et Extend, c'est-à-dire que bah, les exécutifs de CBS donnent carte blanche à des gens et puis ensuite bah, ça donne des désastres.
C'est par quelle chaîne déjà?
C'est CBS.
Ok.
Et le pitch de Zoo, c'est...
CBS sont pas si mauvais que ça en ce moment.
Ils sont super.
Voilà.
Ils sont super. Mais surtout, Zoo, c'est vachement bien.
Et surtout, CBS ne sont pas NBC, quoi. Pardon, j'avais juste envie de taper sur NBC.
Et c'est quoi le principe de Zoo? Ah oui, c'est... en gros, qu'est-ce qui se passe? La série suit... ce qui pourrait se passer si jamais les animaux en avaient marre. C'est-à-dire les animaux, c'est les mammifères, en gros, et les oiseaux.
Ok.
C'est ça pour...
Ils laissent de côté les mollusques.
Ouais, tout ça pour l'instant. S'ils avaient décidé de se rebeller... Pour l'instant, j'ai pas vu de poissons. Mais s'ils avaient décidé de se rebeller contre les êtres humains, de s'allier et de les détruire.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de massacre d'êtres humains par des dauphins? Parce que ça, c'est une série que je regarderais.
Eh ben non, mais par contre, il y a des lesbiennes qui partent au pôle Nord pour vivre leur histoire d'amour. Et elles se font tuer. Elles se font tuer par des chauves-souris qui décident toutes de se poser en même temps sur le panneau solaire qui alimente en énergie le petit endroit où elles sont au pôle Nord. Et elles finissent congelées. Mais je te promets, dans un épisode, il y a un autre épisode où on voit un ours qui boit.
I am the bat. I'm Batman.
Finalement, c'est peut-être BoJack Horseman, la série en live, parce qu'il y a un ours.
En live action.
C'est ça. Dans le 6e épisode, donc on arrive dans une maison.
Oui.
Dans le 16e arrondissement à Paris.
Et il y a un ours alcoolique.
Et il y a un ours qui boit du vin blanc.
Sérieux?
Je te promets, je te promets. Et après, il essaye de tuer la fille du 16e qui parle avec un accent français.
Je la comprends tout à fait. Bien joué, meuf.
Et donc ça suit tout
parce
un petit groupe.
Parce que l'ours, c'est une femme.
Ah, peut-être.
Enfin, je sais pas, non, j'ai interprété ça. Ça permettrait de dire genre, non mais si, les femmes sont surreprésentées, les personnages féminins sont surreprésentés à la télévision. Regardez, Zoo, c'est que des femelles. Et elles ont toutes leurs règles, c'est pour ça qu'elles se mettent à attaquer tout le monde. C'est ça le twist qui va arriver en fin de saison de Zoo.
Merci de m'avoir gâché la saison alors qu'on en est qu'au milieu. Merci beaucoup.
Je pense à combien d'heures de temps.
Non, mais c'est une série exceptionnelle.
Parce que la série, en fait, elle est écrite par Christopher Nolan. Donc
toutes les 10 minutes, ça parle de la DGSE. Puisqu'en gros, là, il y a une petite
la
équipe.
La DGSE ?
Les services secrets français. Okay. Puisque, bon, ça met 3 épisodes. Au départ, c'est un peu comme Sense8, c'est-à-dire qu'on a 4 ou 5 personnes qui sont dans des endroits du monde différents, qui ont des vies différentes, qui font des travaux différents, mais tous à peu près autour des animaux. Et puis, ils mettent 3 épisodes à constituer une espèce d'équipe à la Drôle de Dame. Et après, ils voyage dans le monde entier dès qu'il y a un souci où il y a des groupes d'animaux qui attaquent de façon un peu étrange des êtres humains. Alors, et dans ce groupe, donc, il y a une fille des services secrets français,
okay,
qui est jouée par une française.
Cool.
Et il y a un gars de... comment il s'appelle, James Woke, le gars qui était dans Mad Men là, qui jouait le gay.
Oh!
Mais le jeune.
Ok, la série est vendue, je vais regarder Zoo dès que je peux. Parce que je suis fan, je suis assez fan de films d'Eco Revenge des années. De Eco Revenge. De Revanche Eco, écologique. On va dire pour franciser la chose, parce qu'on aime la francisation, a perdu ça. J'aime beaucoup les films d'Eco Revenge des années 80 et 90, où donc vraiment les animaux se retournent contre les humains. Je suis plus fan quand c'est les insectes, mais les animaux ça me va aussi.
Les insectes sont aussi des animaux.
Oui, voilà, mais. Ah, il y en a dans Zoo ?
Non.
Ah, bah voilà.
Pas encore.
C'est pour ça, voilà.
Pas encore. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les chauves-souris, les ours, les chats.
Les chats,
à un moment donné.
Ah oui, des chats nazis, non ?
Mais non.
Ah non, je confonds avec un jeu vidéo dont on m'a parlé hier. Ah, le jeu vidéo South Park.
Ou avec Mouse, non ?
Non, le jeu vidéo South Park. Non, Mouse, jamais je confondrai quelque chose avec. Avec South Park, avec Mouse.
Mais les nazis, c'est bien des chats dans Mouse.
Oui, je crois.
Bref, c'est un ratage grandiose, enfin, ou un ratage, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient faire ça et qu'ils sont arrivés à avoir à mettre en scène leur vision initiale. Enfin, mais c'est assez exceptionnel. De n'importe quoi, mais c'est plutôt agréable. Le rythme est un peu étrange, c'est-à-dire qu'on est à peu près, par épisode de 40 minutes, on a 25 minutes à un rythme de Previously On, tellement ça va vite. Et puis d'un coup, ça s'arrête.
Okay.
Il y a un personnage qui oublie, qui a une amnésie, donc pendant 10 minutes, là, bah alors rappelle-toi. Donc on ne sait pas, pendant 10 minutes, ça ne sert à rien.
Okay.
Et puis après, on repart, elle se rappelle de ce qu'il fallait se rappeler, et c'est reparti, et ça va tout aussi vite. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très très agréable et très 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 drôle.
Vraiment ? C'est une série que tu conseilles ?
C'est pas du hate-watching, c'est pas du... C'est vraiment sympathique, tellement c'est n'importe quoi, enfin...
D'accord. Non, mais d'accord, moi...
C'est pas une bonne série, foncièrement, c'est pas une bonne série, mais...
Attends, on est le podcast Perdusa, tu crois vraiment qu'on va leur conseiller des bonnes séries ? Faut pas déconner.
Mais c'est plutôt super agréable, drôle, il y a un gros esprit potache, un peu sérieux, je sais pas... Moi, je regarde pas Under the Dome.
Je regarde pas Under the Dome non plus.
Mais Under the Dome, j'avais vu le pilote et franchement, c'était raté. C'était raté, insupportable.
Ouais,
ça se prend pas très très au sérieux, Zoo, mais
tant mieux au final.
C'est ça.
Ok, bah alors moi, Zoo, franchement, tu me l'as complètement vendu. Tu voulais nous parler aussi de The Jim Gaffigan Show.
Ouais, parce que c'est sur TV Land. TV Land, on connaissait TV Land parce que c'était les derniers qui faisaient, ou en tout cas, ils faisaient encore des sitcoms avec des rires enregistrés, et ils avaient pris comme filon de prendre les stars des années 90 et de construire des sitcoms autour d'eux, le plus célèbre étant Hot in Cleveland avec Betty White.
D'accord.
Et Wendy Malick qui fait la voix de la mère de BoJack Horseman dans... BoJack Horseman.
Ah oui, d'ailleurs, BoJack Horseman, on n'a pas cité, mais de... Ah si, on a cité Aaron Paul et tout ça.
Ouais, Alison Brie, Wendy
voilà.
Malick, enfin, il y a tous les gens qu'on aime.
Et celui qui fait BoJack, justement.
Alors voilà, ça doit être son meilleur rôle, puisqu'il est insupportable dans tout ce qu'il fait, sauf ça.
Sauf ça, Will Arnett. Jus est jaloux parce qu'on l'a dit en même temps. Oh. T'inquiète pas, tu restes mon préféré.
Et donc, TV Land a décidé d'arrêter les rires enregistrés et de se lancer dans les sitcoms un peu plus urbaines, un peu plus branchées. Et donc, ils se sont dit que c'était une super idée, un truc hyper original, de donner sa série à un comique de stand-up qui vivrait à New York et qui nous raconterait ses petits soucis quotidiens
d'être un comique. C'est récent, le Jim Gaffigan Show?
Ah oui, c'est diffusé actuellement. Il y en a eu 4 ou 5 qui ont été diffusés pour l'instant.
Ok, d'accord. Donc, ça, c'est clairement des gens qui n'ont pas retenu la leçon de Mulaney.
Bah, Mulaney, c'est une sitcom avec des rires enregistrés. Ouais. Donc là, on est plus dans...
Dans le Louis
on
Maron.
C'est une espèce de Louis, ouais.
Ou Maron. Tu regardes Maron?
Non.
C'est pour Marc Maron. Un peu la même chose que Louis, sauf en beaucoup plus centré sur sa vie. Et c'est très cool. La saison 1 est moyenne, mais saison 2 et 3, la saison 3 en particulier, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est 12 épisodes par saison. Et non, c'est vraiment très sympa, Maron. Mais The Jim Gaffigan Show, apparemment, c'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas parce que... Alors, malgré ce que j'avais entendu... Sur la série où apparemment ça devait s'améliorer et dépasser le simple concept du mec gros un peu con incapable de faire des choses dans sa vie quotidienne marié à une femme hyper belle, hyper intelligente, hyper responsable qui lui donne des choses
toutes
simples.
En gros, c'est la partie la moins cool de Parks and Recreation qui est reprise en série.
Bah ou de toutes les sitcoms
voilà. Le côté de Jerry.
Et puis finalement, bah non, c'est même pas une critique ou une relecture ou un clin d'œil appuyé à ce type de trope. C'est en fait, j'ai pas l'impression que le gars se rende compte que les gens derrière la série s'en rendent compte. C'est dommage parce que ça a été créé par Peter Tolan, qui était le co-créateur de Rescue Me.
J'ai pas vu Rescue Me. J'aimerais beaucoup.
Qui est vachement bien et apparemment.
Rescue Me, c'est aussi Dennis Leary, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et en gros, il avait permis. Enfin, il a réussi à cadrer Dennis Leary et à eux deux, ils avaient fait
bel exploit.
Mais ils avaient fait une chouette série, en tout cas les premières saisons. Je crois pas que j'ai tout vu. Là, peut-être que j'attends que
bon,
ça évolue.
Rescue Me, sauf erreur, le pitch était un peu plus ambitieux, non?
Ah oui, c'est un drama, les pompiers, le 11 septembre, horrible, qu'est-ce que c'est d'être un homme à New York après le 11 septembre et tout, avec toutes ces femmes mythos.
Ça donne super envie quand on parle comme ça.
Chiantes, qui veulent contrôler la vie des héros.
Est-ce que la série a un recul par rapport à ça, ou bien est-ce qu'elle y va à la trou détective, genre...
Faudrait que s'y replonger... Parce que j'ai un très bon souvenir des débuts de la série. En revanche, il me reste aussi une image a posteriori hyper négative de l'utilisation des personnages féminins. Mais
c'était la bonne vieille époque où on ne se préoccupait pas de ça.
Où on ne le voyait pas et c'était même vachement mieux.
C'était mieux, oui, c'était mieux. Mais oui, non, moi, même revoir Scrubs maintenant... en revoyant Scrubs, j'ai réalisé qu'il y avait quand même énormément de blagues qui étaient très limites, de blagues un peu homophobes, de pas mal de blagues racistes que j'avais pas vu les 6 premiers visionnages que j'avais fait il y a quelques années.
Ouais, donc je sais pas ce que ça vaut.
Bon, c'est pas non plus un scandale, hein, Scrubs, mais il y en a quelques-unes assez fréquemment et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, du coup, maintenant, me gêne pas mal. Ça me sort un peu des épisodes.
Ben oui, et là, c'est plutôt bien écrit, c'est joliment filmé, on est à New York, on se croit à New York, enfin, il y a un côté crédible, il y a des répliques qui font mouche, enfin, il y a des choses qui sont vraiment très très drôles.
Si Dennis Leary est attaché, j'imagine qu'il y a des trucs qui font mouche et qui sont très très drôles.
Ah non, là, j'étais parti sur Gaffigan.
Ah, sur Gaffigan.
Ouais, ça marche, mais...
Ça a donc des qualités.
Ça a des qualités, mais moi, je suis hyper gêné par le côté... Ma femme est... que j'aime, hein, parce qu'il adore sa femme et tout. Vraiment, elle est super. Elle lui a donné 5 enfants. C'est extraordinaire.
Génial.
Mais bon, elle est coincée dans ses problèmes du quotidien et elle ne comprend pas que son mari, bah, il soit incapable d'assumer la moindre tâche ménagère au quotidien.
Okay.
Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre pour une série un peu sophistiquée. de rester aussi lourd sur ce sujet-là, sur ce thème-là, de pas l'avoir pris en compte. Peut-être que ça va évoluer, peut-être que le personnage de la femme... parce que la série, elle est coproduite aussi par la femme de Jim Gaffigan, donc je sais pas si...
S'ils ont un couple particulièrement à chier, ou si...
C'est ça, ou si finalement...
ils veulent mettre peut-être en avant l'absurdité de ce genre de... Non.
Ben c'est comme ça que j'avais essayé de le voir au début, pendant les 2-3 épisodes.
C'est quand on essaie de se persuader.
Ok, ben oui, en fait, il se moque de ce trope. Mais au bout de... Enfin, au quatrième, j'étais là, bon, ben, ça commence à bien faire. Dans le quatrième, il y a une scène un peu dérangeante où c'est trois hommes qui sont à table. Et puis, en gros, tout le monde balance des saloperies à la femme qui s'est imposée au déjeuner.
Ok.
Parce qu'elle est chiante, qu'elle boit pas et tout. Et finalement, elle devient uniquement sympa que quand elle est complètement bourrée et qu'elle arrête de faire chier avec ses problèmes et le fait qu'il faut être responsable et devenir adulte et grandir un peu. Donc, je sais pas, je vais peut-être encore continuer 2-3 épisodes et si jamais je suis pas convaincu, peut-être que je passerai à Rick et Morty.
Oui, ce serait cool que tu passes à Rick and Morty.
Allez, raconte-nous ce que c'est Rick and Morty.
Alors, Rick and Morty...
Ah, mais non, remarque, t'en as parlé suffisamment depuis le début.
Non,
on va pouvoir
enchaîner avec
la dernière saison de Nurse Jackie. Parce que comme il ne reste pas beaucoup de temps, il faut bien qu'on utilise à bon escient et qu'on ne parle pas de daube... comme
oui,
The Meltdown with Jonah et Kumar ou
Happy-ish
ou Rick and Morty.
En gros, toutes les séries dont je veux parler, moi. Mais toi, vas-y, parle-nous de la saison 3 de Rectify.
Ah bah non, puisque je ne l'ai pas regardé.
Alors, parle-nous de Nurse Jackie.
Ah bah c'était bien la fin.
C'était ce que tu avais entamé.
C'était bien la fin. J'étais content de voir une série Showtime qui sache se conclure correctement.
C'est vrai qu'ils n'ont pas une longue histoire des shows qu'ils ont bien conclus.
Et Nurse Jackie, c'est une série qui a eu un petit passage à vide en saison 3-4, mais qui a su se redresser. Apparemment, quand ça n'intéressait plus personne, a fourni 2-3 bonnes dernières saisons. Sur tout le thème de l'addiction, c'est une série qui est assez forte, qui voit son personnage principal... retomber dans l'addiction assez régulièrement et ça fonctionne plutôt bien. La fin est plutôt pas très optimiste.
Je t'avoue que j'avais pas accroché à la série, mais tu me donnes envie de lui redonner une deuxième chance. J'avais trouvé ça trop dans la surenchère en fait quand j'avais commencé.
Ouais, et je pense qu'il a fallu un peu de temps à la série pour se trouver.
Comme Six Feet Under.
Ça aussi, c'est une série qui mériterait d'être vue.
Pour l'avoir vue récemment, découverte récemment, je t'avouerais qu'il y a beaucoup dont la représentation du trouble bipolaire est catastrophique dans cette série. Mais vraiment catastrophique. Et puis c'est très dans la surenchère, assez gratuitement. Ça se calme un peu en saison 3, 4, 5. Il y a eu quoi, 5 saisons au total ?
5 saisons, ouais.
Ouais, donc dans les 3 dernières saisons ou les 2 dernières saisons, ça se calme et ils disent des choses intéressantes sur la folie, mais le début de cet aspect-là, évidemment que c'est un aspect qui m'a forcément pas mal marqué. Peut-être que toi, tu serais pas forcément plus aussi sensible à ça, mais moi, je sais que ça m'avait beaucoup dérangé dans la série.
Non, ouais, je sais pas ce que pourrait donner Six Feet Under 5 ans ou 10 ans après. En tout cas, Nurse Jackie, c'est pas une série qui restera dans les annales, mais c'était une chouette, enfin, dramédie, c'est-à-dire ces séries
à
mi-chemin entre la comédie et la... Non, mais qui dure 30 minutes, enfin,
voilà,
je pense que 40 minutes ce serait chiant. Là, ça utilisait bien son format, et puis ça a créé en fin d'existence de la série, il y a eu quelques nouveaux personnages qui ont apporté. Qu'on redonnait de l'intérêt aux relations entre les personnages qui étaient déjà présents. Enfin, c'est plutôt une fin d'existence réussie.
D'accord. Une autre série qui a très très bien fonctionné à partir du moment où elle est passée en format 30 minutes, c'est Community. la dernière saison de Community était particulièrement réussie.
On n'a pas déjà parlé de ça au dernier podcast.
Oui, mais on n'avait pas parlé de ce fantastique, incroyable, magnifique
final. Il faut
finale.
Vraiment qu'on reparle de Community.
D'accord, non, mais c'était génial. Je veux que ça reste dans les annales. Le finale de Community est un des plus beaux finales de série que j'ai vu. Plus beau que celui de Six Feet Under. Mais parle-nous donc.
Non, il n'y a pas de souci. Mais parle-nous, toi, de Scream. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai regardé le pilote.
De quoi ?
De Scream.
Ok, d'accord. De Scream, donc.
De Scream.
Scream. Alors, Scream, c'est la version série TV de cette franchise de films qu'on connaît tous.
Kevin Williamson.
Kevin Williamson, tout à fait. Et
Wes Craven.
Voilà. Qui, moi, personnellement, c'est des films qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. Enfin, j'ai grandi. J'ai vraiment. Oui, pardon. Désolé. Mais moi, j'ai grandi. Toi, tout à l'heure, t'as pu frimer
avec Michael
J. Fox.
Ouais, moi, j'ai grandi avec Arnold et Willy et tout
voilà.
ça.
Voilà. Non, moi, j'ai vraiment grandi avec la saga Scream. Et j'ai toujours été passionnée par les films d'horreur. Du coup, c'était vraiment Scream. C'est quelque chose que j'ai adoré. Quand le quatrième opus est sorti au cinéma, je suis allée le voir. Et je fais partie de ceux qui ont trouvé ce quatrième opus absolument génial et jouissif. À part pour sa fin. Et du coup, j'étais vraiment très très curieuse de ce qu'allait donner cette série faite par MTV. Alors, un des plus gros points noirs de la série, c'est qu'ils n'ont pas eu les droits du masque. Ils n'ont pas le droit à Ghostface. Et c'est dommage, mais ils arrivent à s'en sortir et à utiliser ça à leur avantage en créant une nouvelle mythologie autour d'un nouveau masque. Au final, je trouve que c'est un postulat tout aussi intéressant d'essayer vraiment de...
La créativité naît de la contrainte, c'est ça que tu veux
voilà,
nous dire.
Voilà, exactement. La créativité naît de la contrainte, on sent le prof. Non, oui, tout à fait, je trouve que c'est une série qui... Bon, tout en gardant un côté série pour ados, ça fait quelque chose de très intéressant de l'idée du slasher, qui par principe devrait être quelque chose de court parce que le slasher ça se base sur l'élimination d'un à un de tous les protagonistes jusqu'à la final girl en général, ou dans le cas de Evil Dead de Ash. T'as pas vu Evil Dead?
Non.
Oh mon dieu.
Si j'ai dû voir le premier.
C'est ta génération en plus, Evil Dead.
Moi à l'époque j'allais voir des films iraniens en VO parce que
donc
c'est
tu,
ça qui
tu,
était tendance,
avant,
pas,
tu,
pas
tu,
regarder
tu,
des
tu,
séries
toi,
télé
tu ramènes,
d'horreur
tu, tu ramènes,
pourrie,
tu ramènes, tu ramènes Sam Raimi dans la conversation un peu plus tôt et là tu passes à côté de ses meilleurs films. Bravo, bel esprit. Non mais donc voilà, Scream, ça étend le principe du slasher et ça l'adapte à la série TV et je trouve que ça s'en sort vraiment plutôt pas mal, même plutôt très bien. Ça reste une série d'été, ça reste.
Mais en
une
gros,
série...
il y avait eu des déclarations d'intention dans le pilote qui était en gros, mince, comment est-ce qu'on fait pour faire un slasher
sans
série ? Et en gros, il faudrait qu'on fasse Friday Night Live, c'est-à-dire on s'intéresse, que le spectateur s'intéresse vraiment à mort à ces personnages pour vraiment
Alors,
avoir peur
pas,
d'eux, etc.
Alors, j'irais pas jusqu'à dire qu'on s'intéresse à mort
c'est
à ces
ce
personnages,
que tu disais, ça,
mais tu c'est des personnages. C'est des personnages que... Oui, là, on peut pas... Désolée, Ju est parti, il est juste allé aux toilettes. Donc,
ouais, c'est dommage parce que c'était vraiment
voilà,
son moment.
J'aurais aimé qu'il intervienne là, c'était le moment pour Ju de briller. Mais donc, non, je trouve que sans être ultra attachant, les personnages, t'as envie de les voir évoluer, t'as envie de les voir, de voir leur progression, t'as envie de suivre leurs histoires. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je dis clairement pas que c'est une bonne série, je dis que c'est une série super sympa. C'est une série super sympa.
Comme Zo. Et c'est vrai qu'on s'attache un peu aux animaux, aux chauves-souris, on a vraiment envie de savoir comment elles vont progresser.
Alors là, on sent l'animosité des gays contre les lesbiennes, encore une fois, puisque tes personnages préférés, c'est ceux qui tuent les lesbiennes.
Non, mais c'est...
Je t'ai percé à jour. Mais donc, ouais, non, Scream, vraiment, c'est sympathique. C'est une série d'été, c'est une série à regarder le soir avant de se coucher, qui prend pas la tête et qui reste chouette. Chouette à suivre, voilà, c'est une chouette série.
Masters of Sex, t'as suivi la saison 3 ?
Alors oui, j'ai totalement suivi la saison 3, toi pas ?
Non.
Bon, est-ce que tu veux quand même que j'en dise quelques mots?
Bah oui.
Alors, dans cette saison 3, on fait un bon...
Donne-moi envie de la regarder parce que...
T'as pas envie? Pourtant, il y avait eu des épisodes absolument fabuleux l'année dernière.
J'avais bien aimé la saison 2.
Moi, il y a des épisodes qui m'ont bouleversée. Celui notamment où ils sont enfermés, cette espèce de pseudo huis clos dans la chambre d'hôtel.
Ouais, il était très bien, mais ça faisait...
Où Virginia nous parle de son passé. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé cette saison, dans la saison 3, donc, c'est que le passé de Virginia, cette histoire qu'elle nous avait racontée, elle la rementionne en fait cette année. Et on voit vraiment... tout comme on l'avait vu la première fois, on voit à quel point ça l'a marqué, cette espèce d'abandon qu'elle a connu par cet homme qu'elle se voyait épouser, dont elle était amoureuse, avec qui elle voyait un futur et qui au final s'était avéré avoir une fiancée qui l'attendait une fois que la guerre était finie et qui rentrait chez lui. Donc là, dans cette saison, leur livre sort. C'est un succès d'estime. Il y a des gens qui disent que Freud est mort. Mais il essaie quand même de... Ça reste un succès relatif parce qu'il doit trouver le moyen de monétiser tout ça. Donc lui, il pense par exemple à faire introduire son livre dans un programme universitaire. Parce qu'à partir du moment où tous les étudiants sont obligés de l'acheter, forcément, ça rapporte de la thune. Oui, oui. On voit aussi une évolution de Virginia, de son côté. Et là, on suit un peu plus... On suit un peu plus le personnage de la fille, de Virginia. Mm-hmm. Là, elle a une vraie storyline. Son frère aussi, mais pas vraiment intégré à la série, puisqu'il part faire la guerre au Vietnam. Mm-hmm. Et que sa mère est morte d'inquiétude, évidemment. Non, sa fille, on voit comment c'est problématique pour elle en tant qu'adolescente que sa mère ait sorti un ouvrage sur le sexe aussi révolutionnaire qui parle de choses...
Quand on voit ce qu'ont donné les enfants de Françoise Dolto, en tout cas son fils, on se dit que ça ne devait pas être facile. Carlos, le chanteur.
Oh, ok. je l'ignorais. Ou peut-être, non, en fait, c'était sûrement stocké dans une partie de ma mémoire à laquelle je n'avais pas envie de réavoir accès. Non, Master of Sex, cette saison 3, je la trouve très très bien foutue. Pour le moment, je trouve qu'elle se tient parfaitement. Et vraiment, je te conseille de t'y mettre parce que tu rates quelque chose.
J'ai pas réussi non plus à me replonger dans Rectify saison 3. J'imagine que c'est aussi une erreur.
Évidemment que c'est une erreur, puisque Rectify... Mais Rectify, je t'avouerais que j'ai aussi eu du mal à m'y plonger. C'est une série, j'ai l'impression, chaque année, j'avais aussi eu ça avec la saison 2. J'ai du mal à me lancer dedans, en fait, parce que je sais que ce que je vais voir va être très pesant émotionnellement et va me demander beaucoup d'implication. Et du coup, je sais qu'il y a des moments où je me sens juste pas capable de regarder Rectify parce que c'est trop dur. Enfin, pas forcément parce qu'il arrive des trucs dramatiques aux personnages. En plus de son passé, mais simplement parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une série qui demande pour le coup de s'investir dedans, et enfin qui te force à t'investir. Elle demande pas de t'investir, mais tu sais que quand tu la regardes, tu vas vraiment être dedans, et c'est quelque chose. Tu vas voir des trucs qui vont te perturber, te révolter, te foutre, te retourner quoi. Et enfin cette saison me retourne tout autant que les précédentes. C'est dommage que tu ne l'aies pas vu parce qu'on ne parle jamais assez de Rectify, malheureusement. On devrait en parler plus, mais c'est juste que c'est tellement un peu à la Mister Robot, c'est vraiment une expérience. C'est une expérience à tous les niveaux, Rectify. Enfin, c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience intellectuelle, émotionnelle. Et du coup, c'est une série dont au final j'ai beaucoup de mal à parler. Même si pour moi, c'est probablement la série qui devrait se retrouver tout en haut du tableau Perdusa chaque fois qu'elle passe.
C'est pas VIP plutôt qui devrait être...
J'ai toujours pas vu VIP. Hein.
Voilà. Écoute, on a à peu près fait le tour, non? Tu voulais dire au revoir...
Je voulais conseiller...
C'est qui le gars... Le Yann Barthès américain, là.
John Stewart. Comment il s'appelle? John Stewart, oui, John Stewart. Le Daily Show with John Stewart s'est arrêté après 17 ans, sauf erreur d'existence. Moi, ça faisait seulement 8 ans que je le regardais. Ou 7 ans. Ouais, 7
T'as
ou 8 ans.
T'as commencé à 4.
Je ne suis pas Estelle. Non, je crois que j'ai commencé autour de 16-17 ans. Et du coup, John Stewart, c'était vraiment le Daily Show pour John Stewart. Même si, avec l'arrivée du Last Week Tonight with John Oliver, je le regardais moins systématiquement. Pendant plusieurs années, le Daily Show, je regardais chaque épisode diffusé. Et surtout, le Daily Show, c'était quelque chose de très important pour moi au moment où il y avait des tueries, des crises comme ça, la tuerie de Santa Monica, enfin toutes ces tueries qu'on voit passer, parce qu'à chaque fois, c'est des trucs qui m'atteignent beaucoup. Et du coup, j'allais chercher au final, dans Jon Stewart, j'allais chercher un réconfort. J'étais là, c'était le type qui... Enfin, c'était le type qui, je sais, qui quand tout se barrait en couilles partout dans le monde... c'était le type qui allait être là et tu sais, le genre de type avec qui t'es en train de boire une bière et qui t'aide à dédramatiser, qui t'aide, non pas à dédramatiser, mais qui t'aide à supporter au final la quantité de drames qui se passent autour de toi. Et du coup, le Daily Show pour ça, c'était, je sais que chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me foutait vraiment mal dans l'actualité, le Daily Show, j'y retournais, mais religieusement, parce que j'en avais besoin. C'était une béquille.
Mais ça traite essentiellement de l'actualité américaine, non?
Oui.
Où il y avait un peu d'international.
Il y avait un tout petit peu d'international, mais c'est essentiellement américain. Mais c'est vrai que je suis beaucoup exposée, enfin, par Twitter et tout ça, je vois beaucoup tourner l'actualité américaine. Et étant quelqu'un qui réagit particulièrement à chaque fois qu'il y a eu une tuerie ou quelque chose du genre, bah, il avait parlé de Charlie Hebdo, enfin, évidemment. C'est quelque chose que vraiment, ouais, je pouvais utiliser comme un point de sauvegarde, quoi.
Tu connais le gars qui va le remplacer?
Ouais, Trevor Noah. Je crois qu'il est à moitié suisse en plus, ou un quart non. suisse, suisse-allemand. Mais ouais, je le connaissais, j'avais vu un peu de stand-up de lui, je crois. Je suis pas totalement emballée, en plus il a eu des propos, des blagues un peu sexistes et tout ça, mais enfin, après on a découvert il y a quelques semaines que Jon Stewart apparemment a été très fermé, enfin avait eu une attitude de gros connard blanc sur la question de Ferguson, non, sur une question d'imitation, je crois. Jon Stewart en fait avait fait une imitation d'un cliché rasta ou d'un cliché noir, et le seul membre noir du staff avait dit qu'il avait trouvé ça un peu offensant. Et Jon Stewart lui était complètement rentré dans l'art en disant « Mais non, tu sais, tu vas pas me dire que je suis raciste et tout ça. » Enfin, voilà, on a appris ça. Mais c'était avec Wayan Senak qu'il avait eu cette engueulade. Et Wayan Senak, ça m'a fait plaisir quand même. Il était là dans le dernier épisode du Daily Show pour dire au revoir à Jon. Alors que le scandale a éclaté il y a une semaine ou deux, je pense. Mais voilà, comme quoi même les meilleurs d'entre nous ne sont pas épargnés par des idées préconçues et n'ont pas besoin d'être éduqués.
Ah bah tu vois, tu as bien fait de revenir pile à ce moment-là, on parlait de toi.
Le meilleur d'entre nous. Je voulais aussi dire vite fait deux mots sur The Meltdown with Jonah and Kumail, qui est une série qui se passe dans les coulisses du Meltdown Comics, là où est aussi enregistré Harmontown, le fameux podcast d'Anne Harmon. Et oui, encore une fois, je le place. Et c'est une série, enfin, c'est pas une série, c'est un show de stand-up, où en fait, Jonah et Kumail Nanjiani vont nous introduire des différents comédiens de stand-up, 4 ou 5 par émission. Et du coup, on découvre beaucoup de diversité. Il y a aussi des femmes. Ça fait plaisir parce que ça me permet de découvrir des comédiennes féminines, ce qui n'est pas forcément... même quand tu aimes le stand-up, ce n'est pas forcément les plus faciles d'accès. À part quelques exceptions comme Jane Kirkman, par exemple, ou Vanessa Leggero ou Amy Schumer, ce n'est pas forcément celles qui sont le plus mises en avant. Amy Schumer à juste titre parce que j'aime pas ses stand-up en général, mais voilà, c'est cool d'avoir une émission sur les coulisses d'un show de stand-up et qui en même temps nous montre les beats de stand-up qui se performent sur scène. C'est vraiment très sympa et c'est pas prise de tête et ça peut aussi se regarder que du coin de l'œil, enfin du coin de l'oreille pour écouter les vannes. C'est une série facile à regarder, donc si vous êtes un peu intéressé par le stand-up, je vous conseille fortement The Meltdown with Jonah and Kumail. Voilà. Et bien sûr, Rick and Morty, de Justin Roiland et Dan Harmon, qui est un dessin animé sombre. Mais pareil...
ça s'appelle BoJack Horseman.
Ne vous fiez pas qu'aux 4 premiers épisodes, Rick and Morty, c'est mortel. Une des 5 plus belles scènes de série TV que j'ai vues l'an dernier, c'était dans Rick and Morty. Et cette année...
c'est le truc que j'ai vu, là ?
Non, ça c'était cette année. Mais cette scène aussi, je l'ai trouvée très belle. Enfin, en tout cas, quand tu connais la série, elle est particulièrement belle. Je parle d'une scène de la saison 2, épisode 3. Les 5 dernières minutes sont absolument incroyables. Donc, as-tu quelque chose à rajouter ?
Eh ben non, je pense qu'on a beaucoup de séries à regarder.
Tout à fait. Et on se retrouvera la prochaine fois pour en parler.
Absolument, la prochaine fois que tu montes sur Paris.
C'est dans 2 semaines, donc non, je plaisante, non, je sais pas, je sais pas.
Oui, parce
Ce sera
que...
probablement dans 6 mois, hein, ne vous excitez pas, ou plutôt, en fait, je pense qu'en
Soyez
disant ça,
rassurés,
soyez
soyez
rassurés, ce
rassurés.
sera pas avant 6 mois. Voilà, donc au revoir et merci de nous avoir écoutés pendant cette proche de 7h30. On espère qu'on vous a instruit, amusé et diverti. Et à la prochaine fois. Au revoir, GG.
Ah,
Au
au revoir,
revoir.
Jus.
Au revoir, Ju. Au revoir, Tigrou. Ils veulent pas parler, c'est nul.